Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 90. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc déjà, on voudrait dire un gros merci à nos fans qui nous suivent, qui nous supportent et qui sont maintenant plus de 1000 à nous aimer sur la page Facebook. Donc c'est vraiment plaisant en fait, un gros chiffron. En plus, ça concorde un peu avec les 2 ans du podcast, du projet avec vous deux les gars, donc on est très contents.
Puis avec ta fête aussi, Paul, sacrifice!
C'est ta fête, Paul!
Ben oui,
c'est la fête!
Un beau cadeau d'anniversaire, donc merci beaucoup. T'sais, nous, on fait ça vraiment pour le plaisir, pour le fun, parce qu'on aime le cinéma et les invitations aux projections de presse. Donc, on est vraiment contents de continuer à faire ça de manière assez régulière. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je publiais une grosse critique slash grande lettre d'amour à Jackie Chan.
T'es dans feu.
Qui est un héros de mon enfance. Hein. Puis je dis ça de manière tout à fait sincère, hein, c'est pas ironique. Donc, pour son film Chinese Zodiac, qui est vraiment pas un de ses meilleurs, mais que c'est un peu comme une tournée d'adieu, en fait, parce que c'est vraiment plein de clins d'œil à sa carrière. Puis c'est vraiment pour les fans seulement. Là. Un peu comme, tu sais, mettons, tu vas voir un groupe, là, tu sais, AC/DC ou les Rolling Stones, tu sais, qui sont rendus vraiment vieux, puis tu payes comme 200$ le billet, mais, tu sais, ils font juste jouer, dans le fond, leur classique. Là. C'est plus la technique ou la virtuosité que tu regardes, c'est juste comme un peu les souvenirs passés après des décennies de carrière. Donc, Jack Chan, c'est un peu ça. Hein. C'est 40 ans de carrière, plus de 100 films. Puis vraiment, c'est, comme je disais, c'est une école à lui tout seul. T'sais, il y a vraiment sa propre personnalité, son propre style. T'sais, les cascades dans ses films, t'sais, il y a son propre studio avec sa propre équipe qui font tout le temps ça. Puis il a vraiment apporté, c'est ça, une espèce de genre à mi-chemin entre la comédie et les prouesses d'arts martiaux. Parce qu'avant, souvent les films d'arts martiaux, c'était très sérieux, tu sais, c'était des films de revanche ou des films sur, tu sais, plus philosophiques. Puis lui apportait un petit côté un peu de slapstick. Ouais, moi je suis un gros fan. Et le film est quand même beaucoup plus fun que ce que je pensais. Hein. On est proche d'un Pirate des Caraïbes.
C'est lequel ça? C'est quelle année? C'est quand? C'est quoi?
Chinese Zodiac, c'est sorti à Noël 2012 en Chine. Mais ça vient de sortir ici, directement en VOD ou en DVD Blu-ray. Parce que, bon, le film est pas très bon, et puis il n'y a plus vraiment un public pour ça en Amérique du Nord, pour le film de Jackie Chan.
Sauf Paul Landriau,
chez eux. Ouais, mais comme tu vois, tu sais, s'il n'était pas sorti au printemps, je l'aurais bien vu à Fantasia, tu sais, faire une espèce de sale combe, probablement. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est un film de 2 heures, un peu comme un James Bond. On s'en va dans la jungle de Taïwan, on s'en va en France pour se battre devant la Tour Eiffel, on s'en va dans plein de places comme ça. Puis dans le fond, le scénario est vraiment banal. C'est JC, parce que c'est ça son nom, hein, JC. On va pas chercher plus loin un nom de personnage. Qui doit récupérer les 12 têtes de bronze éparpillées un peu partout à travers le monde, qui ont été volées au gouvernement chinois il y a des centaines d'années par les méchants conquérants des pays étrangers. Donc, tu sais ça, c'est juste un prétexte, en fait, à avoir plein de séquences d'action qui sont vraiment impressionnantes. Hein. Jackie Chan, là, il avait 57 ans lors de ce tournage-là, puis... Tu sais, c'est encore lui qui fait ses cascades, c'est lui qui est là. Il y a un peu de CGI dans ce film-là, mais la plupart du temps, tu sais, c'est vraiment comme des chorégraphies de combat qui sont comme hallucinantes. Tu sais, je pourrais pas faire ça même si je m'entraînais pendant des dizaines d'années. Fait que de voir comme quelqu'un qui pourrait être mon grand-père faire ça, c'est assez impressionnant.
Ben oui, on parlait il y a plein d'anniversaires là, tout partout. Là, on commence l'épisode comme ça, là, mais Jackie Chan, là, dans genre une semaine, là, il va avoir 60 ans.
C'est fou, hein?
Fait que, ouais, c'est fou, pareil, hein?
Ah ben, juste pour l'anecdote, il a volé, en fait, à Robert Rodriguez un prix, un record mondial Guinness avec ce film-là.
Ah, ouais?
C'est-à-dire le plus de postes pour un seul film. Donc, maintenant, c'est Jackie Chan qui détient ça avec 15 postes pour ce film.
Ah, ouais?
Entre autres, acteur, réalisateur, scénariste, producteur exécutif, chorégraphe des cascades, cascadeur.
Fait que c'est son bébé, vraiment, là, c'est vraiment cool. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait des... Moi, je connais pas beaucoup la carrière de Jackie Chan. J'ai vu c'est plus connu comme Rush Hour, Rush Hour 2, Rush Hour 3. Là. C'est pas mal ça, ma lignée. Tu sais, j'ai pas vu les grands classiques. Là. C'est comme... Est-ce qu'il a réalisé d'autres films? C'est quoi ses highlights, en fait, là-dessus?
Il a réalisé à peu près une quinzaine de films. Puis souvent, c'est parmi ses meilleurs, hein, ceux qu'il a réalisés. Entre autres, il y a Project A, qui est très bon. La série aussi des Police Story ou Super Cop là, en ouais. Amérique du Nord, il y a comme tout le temps plein de titres différents. Mais je pense que c'est pas mal lui qui les a tous réalisés aussi. Et entre autres, je sais qu'un de ses meilleurs, c'est lui qui l'a réalisé, c'est Drunken Master 2, aussi connu sous le nom de The Legend of the Drunken Master, en 93 ou 94. Puis ça, c'est, selon moi, c'est son chef-d'œuvre. Donc ouais, il est quand même... touché à la réalisation souvent, mais tu sais, c'est pas comment je dirais ça, il a beau réaliser là, c'est comme quand que Clint Eastwood réalisait un Dirty Harry, tu sais, t'écoutes pas ces films-là pour la réalisation ou pour le scénario, tu sais. Mm-hmm. Donc pour moi ça change pas grand chose que ce soit lui qui soit derrière la caméra ou non, sauf que dans ce film-là c'est vraiment du fan service, puis il y a plein de clins d'œil à sa propre carrière, c'est le fun pour les fans.
Mais reste que probablement, tu sais, il connaît ses cascades, puis il connaît ses limites, fait qu'il peut arranger le scénario puis le tournage autour de ce qu'il est capable de faire, là.
Ah, c'est ça, clairement,
doit rehausser ouais, vraiment ses prouesses.
Ouais, ouais, parce que, je veux dire, ces films-là s'écrivent d'abord en salle d'entraînement où ils ont plein d'accessoires. Tu sais, à chaque fois, c'est comme, bon, comment qu'on va faire pour plugger une chaise ou une échelle pour essayer ouais. de faire des trucs avec ça. Dans ce film-là, il y a une scène, justement, qu'il est dans un studio photo, puis là, il se bat au début avec une espèce de parapluie réflecteur, là.
Ah, ça va être...
Ensuite, il prend comme un trépied avec un appareil photo dessus, il se bat avec. Fait que c'est un peu comme une espèce de symbole, genre je manie la caméra comme je manie les arts martiaux un peu aussi, c'est l'extension de mon corps. Plus loin, tu sais, il y a un cadre qui flotte dans l'image, un cadre vide là, qui est suspendu avec des fils dans le studio de photo. Puis là, dans le fond, tu sais, les bad guys, puis lui, ils vont flotter à travers le cadre. À un moment donné, c'est le bad guy qui tient l'appareil photo, qui déclenche une photo de lui, qui fait une pause dans le cadre. Fait que tu sais, il y a comme plein de petites jokes comme ça, un peu réflexives, qui sont aussi intéressantes.
Mais le mot-clé, c'est vraiment slapstick, tu sais. C'est ça que... Ouais. C'est un peu comme l'utilisation de l'environnement, des décors, des accessoires, tout ça, tu sais, dans le but de faire rire. Ben ici, c'est dans le but de faire rire et par extension, dans le but, tu sais, d'en jeter au niveau, c'est ça, d'une prouesse physique, d'une chorégraphie de combat, d'art martial. Mais ouais. je pense que c'est ça. Là, c'est vraiment le mot-clé, en fait, pour apprécier Jack Chan à sa juste valeur, parce que c'est ça. Mais en même temps, moi, comme je te dis, je t'écoute, je veux dire, on dirait que je vois là, les yeux pétillants de Paul Landrieu quand il parle de Jack Chan. Tu sais, je peux pas, j'avoue que je partage peut-être pas le même espèce d'amour inconditionnel, parce que
ouais.
j'en ai même déjà parlé. Pour moi, sa filmographie, c'est un peu une grosse bouillie où je suis même pas capable vraiment de séparer un film d'un autre tant que ça. Mais j'avoue que le feeling global qui découle, moi, de mon appréciation d'un Jackie Chan, c'est très positif, parce que t'as pas l'impression qu'il prétend être plus que ce qu'il est, puis qu'il fait les choses comme un autre, tu sais, il les fait vraiment à sa façon, puis justement, mm-hmm. c'est ça qui fait que, tu sais, des films de Jackie Chan, c'est des films de Jackie Chan, on appelle ça comme ça, c'est comme des films d'Arnold, ouais. ou des films de, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, là, que tu peux dire des films de, puis c'est comme l'acteur qui devient ouais. en tête comme autant, mm-hmm. donc ne serait-ce que pour ça, respect Jackie, respect.
Ouais, effectivement. Sinon, actualité, ben, en fin de semaine dernière avait lieu, bien sûr, la soirée des Jutras, qui vient clore un peu le bal des galas. Moi, je l'ai pas écouté, mais j'ai vu un peu les prix. Fait que j'en parlerai pas trop, mais toi, Rémi, t'étais pas mal ému à cette soirée-là. Une soirée forte en émotions, selon toi.
Ben, en conclusion, c'était très... désolé, mais c'était un peu plate là, comme soirée, là, comme gala. Je pense pas qu'il y avait tant de highlights. Ben, comme on avait déjà parlé, puis tu sais, avec les numéros de variété qui sont coupés au travers du gala pour essayer d'attirer monsieur, madame, tout le monde, c'est un gala qui s'étire vraiment. T'sais, on essaie de focusser sur une remise de prix, mais on extrapole un peu trop avec...
Ben, j'ai vu comme le numéro musical de Louis Cyr, là, c'est un peu bizarre.
Ouais, puis il y avait...
C'était pas que c'est mal fait, tu sais, je veux dire, c'était bien fait, mais c'est... Je sais pas à quel point que... Encore là, si t'enlèves toute cette espèce de petit fla-fla-là autour, qu'est-ce qui reste, tu sais, je veux dire, je pense que les animateurs prennent trop de place. En tout cas, je vais y revenir. Moi, j'ai des critiques par rapport au gala, là. Continue, Rémi, mais...
Mais il y avait Loco Locas qui rend hommage aux disparus avec un rap, là, ça avait comme... Tu sais, ils disent bye à Michel Bro en rappant. Je sais pas, il y avait quelque chose qui sonnait comme un peu... pas à la bonne place, là. Mmh. De la façon que c'était fait, là, je sentais comme un clash, une froideur là-dessus, mais en tout cas... Mais il y a deux highlights, quand même, qui sont venus me chercher. D'abord, l'hommage à Michelin de Lanctot.
Ouais.
C'est sûr que j'ai un petit parti pris, je l'ai eu comme prof pendant deux sessions, j'ai travaillé avec aussi, puis... mais juste le discours qu'elle a fait, la chaleur de la salle aussi, parce qu'elle a, toujours eu de la misère dans sa carrière, autant que les gens la respectent, autant qu'elle a, elle a jamais gagné de prix, elle a jamais eu tant de grosses réceptions du public, c'est-à-dire des gros box-office. Puis elle s'est toujours battue pour faire ses films aussi. Des fois, ça y a pris là, des années pour qu'un scénario soit financé, pour qu'elle puisse enfin tourner son film. Fait que ça m'a tellement fait chaud au cœur de juste la voir sur le stage puis de se faire applaudir par l'industrie du cinéma québécois. C'était un magnifique hommage, vraiment. Puis elle a fait le tour de ses remerciements aussi, puis ça, j'ai tellement trouvé que ça avait de la classe, là, mais aussi, une autre place, on se sent concerné, on est un peu nombriliste, ouais. Là, mais elle a remercié quand même ses étudiants de Concordia. En deuxième, elle a remercié tous ses étudiants de Concordia depuis les 30 années qu'elle a été là. Tu sais, elle a pris la peine de faire ça. Oui, j'ai versé une larme, là. Ça a été vraiment un highlight, là. J'étais tout ému de voir ça. Puis l'autre moment, l'autre gros highlight, je pense, de la soirée des Jutras, c'était le discours d'Antoine Bertrand. On avait cinq acteurs, cinq gros noms, en fait, des super performances cette année qui se battaient, mais je pense qu'Antoine Bertrand le méritait amplement son prix. C'est fou qu'il soit passé, tu sais, de l'acteur des bougons, le gros des bougons, gros un peu câble, niaiseux. Là, ouais, c'est ça, puis qui se rend à un acteur respecté par l'industrie du cinéma au Québec, là. Puis tu sais, c'était vraiment ça dans son discours, en fait. Il était ultra ému, il avait les larmes aux yeux. Puis en fait, tu sais, on en a parlé aussi à je pense à deux trois podcasts. C'était le rôle, en fait, c'est un peu le rôle de sa vie, là. Probablement qu'il va en faire d'autres, des grands rôles, mais interpréter Louis Cyr, c'était vraiment le rôle pour son casting. Il n'y a pas un casting qui va avoir des premiers rôles à chaque année, tu sais, ça va être... Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de premiers rôles au Québec, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de longs-métrages qui se font. Un premier rôle pour un casting comme Antoine Bertrand, ça va être très dur à revoir dans les prochaines années. Fait que c'était vraiment le moment pour lui de shiner, puis il s'est tellement donné pour le rôle, il s'est entraîné pendant, je pense, un an pour faire Louis Cyr. Il a mis, tu sais, sa vie sur hold pour faire ce gros projet-là, puis il en sort vainqueur, puis son discours, il était très, très émouvant. Là.
Ah oui, puis en plus, ce qu'on dit pas, puis en fait, tu sais, ce qu'il a pas dit ouvertement puis allègrement, mais ce qu'on a su par la suite, c'est qu'en fait, la journée même, il allait à l'enterrement, tu sais, aux funérailles de sa mère. C'est quand même, tu sais, fait que, je veux dire, l'hommage qu'il fait à sa mère à la fin, je veux dire, c'était très avif, tu sais, c'est on ne peut plus sincère, puis effectivement, que c'est sûr que ça vient de chercher un peu. Puis je te seconde, je veux dire, moi, en fait, Antoine Bertrand qui gagne pour Louis Cyr, c'était un des prix que Louis Cyr méritait vraiment. Il y en a d'autres que je me questionne, mais par rapport à ça, on en a parlé, puis comme tu l'as dit, je pense que c'est ça, c'est un rôle déterminant, c'est un rôle marquant, puis tu sais, c'est un gros film, puis c'est un film aussi qui n'a pas vraiment un scénario, il y a bien des prouesses et des qualités, Louis Cyr, on va se le dire, là, c'est pas nécessairement ou ne serait-ce le dialogue qui fait en sorte que les acteurs peuvent détonner puis vraiment s'en sortir bien. D'ailleurs, ça m'a surpris que Guillaume Cyr aussi remporte le Jutras du meilleur acteur de soutien, dans un rôle de personnage fonction, là, disons-le. Le personnage n'est simplement là que pour faire miroiter la force et la détermination et le grand cœur de Louis Cyr, là. Donc ça, ouais. On passera. Je veux dire, Guillaume Cyr, c'est pas... moi, je trouve qu'il faisait très bien dans un rôle quasi inexistant, en fait. Mm-hmm. Donc, il gagne, c'est cool, là. Je veux dire, c'est un bon acte, c'est pas contre lui, c'est vraiment pas contre lui. Il a de l'air d'ailleurs d'un jeune homme méga sympathique, mais je trouve que le rôle est vraiment trop mince, c'est pour que le rôle ne méritait pas de Jutras. La performance était très bonne dans un rôle inexistant. Bon, ça c'est pour moi. Mais oui, non, Antoine Bertrand, ça méritait, parce qu'il a réussi à transcender un scénario un peu défaillant, des dialogues un peu corny. Le film fait vraiment en sorte pour le mettre en valeur, mais ça sert à rien de mettre quelque chose autant en valeur artificiellement s'il n'y a pas de valeur profonde. Puis Antoine Bertrand donne une valeur profonde au film. Puis c'est tant mieux, parce que sinon le film aurait été un peu trop stérile, à mon humble avis.
Ben moi, c'est juste que pour les prix, en fait, j'ai trouvé que c'est une année vraiment bizarre, en fait, où on célébrait le populaire, comme si, on n'arrête pas de revenir avec la crise du cinéma québécois, mais comme si on avait besoin de récompenser justement ces films qui ont réussi à toucher un public, tu sais. Comme c'était vraiment l'effet locomotive de Louis Cyr et Gabriel qui ont à peu près tout raflé les prix. Mm-hmm. Puis honnêtement, il y a plein de prix qui étaient mérités. Là, Antoine Bertrand, je trouve que c'est un prix super mérité, comme absolument, on l'a déjà dit. Puis tu sais, Gabriel, à la limite, meilleure réalisation, je le comprends un peu plus que genre meilleur scénario, mais je trouve vraiment pas que c'est un bon scénario, Gabriel. Je trouve que c'est vraiment quelconque. Il y a comme pas vraiment de conclusion. T'sais, le film finit vraiment comme... on se demande pourquoi. Il y a plein de questions en sourdine. Je trouve que le développement des personnages, il n'y a pas de conclusion dans leur arc narratif. Certains dialogues sont assez pauvres. Et on lui donne un scénario, alors qu'à côté, il y a un film comme, mettons, Vic et Flo, qui est très original. Un film qu'on en voit peu. Je pense que Diego Starr aussi était dans le meilleur scénario. Bon, je sais qu'il y a certains qui ont trouvé que c'était un scénario faible, mais je trouvais déjà que c'était mieux écrit. Même pour les courts-métrages, il me semble qu'on a célébré plutôt les vedettes. T'sais. Bon, Quelqu'un d'extraordinaire de Monia Chokri, je trouve que c'est un très bon film, excellent court-métrage.
C'est vraiment bon.
Donc, ouais. Ça, je suis content qu'il ait gagné. Mais le cours d'animation, le courant faible de la rivière de Joël Vaudreuil, qui est un membre du groupe Avec Podcast, ben, honnêtement, je trouvais que son film était plutôt faible, surtout par rapport à la compétition. Entre autres, Gloria Victoria de Théodore Chef, c'est vraiment comme ça, c'est un bijou d'animation. Donc, bon, je trouve ça juste un peu dommage, un peu ce réflexe d'aller vers les. Ben, en même temps, peut-être que je prête des fausses intentions, hein, peut-être que c'est seulement une coïncidence qu'il y ait autant de prix qui sont allés à Louis Cyr et Gabriel, mais je sais pas, pour moi, c'est l'année où on s'en va vraiment vers le populaire, puis tu sais, c'est comme deux des trois films qui ont fait le plus d'argent cette année.
Ouais, mais c'est pas le populaire n'est pas nécessairement mauvais puis fondamentalement mauvais. Non, le problème, c'est ça. Mais le problème, c'est que dans une année qui avait autant de profondeur, ce soit pas reconnu comme tel. Tu sais, supposons que moi j'ai vu deux films québécois cette année, que j'ai juste vu Louis Cyr et Gabriel, ok. Ben si j'écoute les Jutras, on dirait que je me conforte dans le fait que ah ben crème, j'ai vu ce qui valait la peine d'être vu. Puis tu sais, je veux dire, ça te force comme pas à juste être un peu plus curieux, voir un peu plus loin, tu sais, je veux dire, me semble que c'est un peu l'entrée de gamme, tu sais, puis faut que ces films-là existent parce que c'est des entrées un peu en gamme, tu sais, je veux dire, faut aller voir Louis Cyr pour peut-être plus tard aller voir Vic et Flo, tu sais, c'est correct, c'est vraiment correct, puis Louis Cyr, moi, je l'ai aimé, je l'ai beaucoup défendu au podcast, si vous voulez même aller voir le, tu sais, aller réécouter le podcast où on en parle au moment où on l'a vécu à vif, tu sais, c'est un bon film. Mais je veux dire qu'un film comme ça occulte ce qu'il faisait déjà avec une couverture médiatique qui était absolument 40 fois plus grosse que n'importe quel autre film québécois cette année. Puis que là, en plus, je sais que les gars-là sont pas là comme des agents de promotion. Okay? Je sais que... Puis comme les critiques ne sont pas là non plus comme des agents de promotion, je veux dire, il faut que tout le monde reste intègre. Puis si c'est un système de vote qui a fait en sorte que Louis Cyr gagne, ainsi soit-il. C'est correct. Sauf que... Je sais pas, c'était peut-être la façon de autant, comme tu l'as dit, Paul, là, autant tout le temps aller chercher le plan de la vedette, autant... Je sais pas, on a essayé d'embourgeoiser ou de donner une espèce de royauté cette année au cinéma québécois, mais c'est niaiseux, on devrait les briser, ces horizons-là, à mon avis. Je sais pas, je pense qu'on passe à côté d'une richesse qui est la profondeur. C'est ça, la plus grosse richesse. C'est la variété puis la profondeur. Donc, qu'on remette des prix aussi peu variés et aussi peu profonds, je pense que c'est de mal comprendre le cinéma québécois, en fait.
Mais même le producteur de Louis Cyr, en fait, qui est allé chercher son prix, était hyper surpris, lui.
Ouais.
Quand il a eu son prix, il a dit « c'était comme impossible parce qu'on récompense jamais les films populaires, on récompense toujours des films plus d'auteurs », puis il en revenait pas, en fait, que c'est lui-même, c'était comme une grosse surprise, là. Je pense qu'il y a personne qui s'en attendait parce qu'on ces films-là sont toujours récompensés avec le billet d'or, mais après ça c'est plus des films d'auteurs, comme tu dis, des films un peu peut-être plus plus profond, plus je sais pas comment dire, là, mais ouais, on évite les gros succès populaires, là.
Ben ouais. Encore une fois, dès les nominations, il y avait le petit irritant, le météore rien. Bon, écoute, c'est un film un peu étrange, c'est pas grave, ça va, tu sais. Mais là, je veux dire, que ça prend tout pour qu'on ait un plan de Denis Côté, puis ça, ben, en fait, ça prend Pierre-Yves.
Hey, attends. Moi, je voulais en venir justement, mais Denis Côté, il y a eu beaucoup de cracks qui ont été lancés à lui, là. Il a eu quand même eu beaucoup de focus sur lui pendant toute la soirée, là. C'est juste à la fin. Marc-André Grondin qui fait une joke sur Denis Côté. Tout le monde l'a applaudi aussi pour Vic et Flo. Il y a Pierrette Robitaille qui a fait un hommage au travers de son discours de remerciement. Ouais. Il y a quand même eu un bon focus sur Denis Côté. Puis,
c'est vrai.
Avec son pas de réaction en plus, là, son air de Denis Côté.
À la limite, je trouve ça quasiment surprenant que Denis Côté se pointe au Jutra.
Ouais, moi aussi. J'étais vraiment surpris.
Il me semble que c'est le genre de personnage qui en a rien à foutre, là, dans un sens, là, puis qui est rendu comme plus loin que ça, entre guillemets. Là.
Mais c'est drôle, justement, le Marc-André Gondin qui dit, t'sais, Denis Côté avec le petit sourire en coin en voulant dire, t'es là, mais tu gagneras pas, mon homme. Là. C'était quand même, je sais pas trop. Là. Mais écoute, Moi, globalement, ah, puis, ben, c'est ça. On pourrait parler du gala en tant que tel, mais ça, c'est superficiel. Je pense que le but, tu sais, d'une soirée comme ça, c'est de justement de montrer un peu le cinéma québécois, de l'afficher dans ses couleurs, dans ses forces, dans ses faiblesses. Puis je trouve que cette année, en fait, c'est de cracher sur notre industrie que de autant occulter la profondeur du cinéma québécois. Vraiment, je me répète, mais je trouve, moi, c'est borderline insultant, en fait. J'ai autant, c'est la première fois que je suis autant profondément, peut-être même, encore une fois, c'est pas Louis Cyr qui gagne meilleur film, c'est même pas un symptôme, c'est pas comme, comment je peux dire ça, mon rant, là, un peu, là, bon, là présentement, ne découle pas de un élément précis, découle vraiment d'une espèce de sentiment global de pas respecter, en fait, les artistes et les artisans du cinéma québécois dans leur variété, à leur juste valeur, en fait.
Bon. Ben, parlant d'un gala que lui remis les bons prix aux bonnes personnes, c'était aussi la soirée des aurores.
Ah, moi, j'adore ça. À chaque année, c'est tellement un plaisir. Je suis un fan d'Infoman. C'est une des seules émissions que j'écoute à chaque semaine. Mais les aurores, là, c'est un gala qui clenche. Là. En 22 minutes, ils ont remis autant de prix que les Jutras, tu sais. Puis c'est juste enchaîné un après l'autre. Mais ouais, il y a eu des super belles critiques hein, qui ont suivi un peu ce qu'on a dit au podcast. Là. J'aime tellement les commentaires des critiques, en fait, du jury. Là. Michel Coulombe, là, ses remarques sont tellement délicieuses à chaque fois. Là. C'est toujours des espèces de métaphores qui font pas de sens là, pour décrire les films sur comment c'est de la merde. Là.
D'ailleurs, le meilleur pire film cette année, c'était Hot Dog et quoi déjà?
Lac Mystère, ouais. Mais Lac Mystère, moi, je sais pas, je trouvais que ça avait l'air cool quand même. Je l'ai pas vu, là. Mm-hmm. Mais j'avais comme. J'espérais, tu sais, qu'Annuel, il ose toujours faire de quoi de différent de ce qui se fait au Québec. Puis ça a l'air que c'est mauvais, là, d'après les aurores, là.
Ouais, mais je pense, c'est ça. Mais je pense pas que, tu sais, on a parlé puis on a reparlé, mais Hot Dog, c'est quand même pas le désastre de la décennie. C'est très mauvais, puis si les blagues tombent à plat, mais tu sais, à la limite, là, tu sais, ça s'écoute, là. Contrairement à d'autres certaines années, là, je veux dire, je sais pas. Donc, si c'est Lac Mystère et ça qui gagne le meilleur pire film, ça veut-tu dire qu'on n'a pas eu un vrai navet au Québec cette année? Hot Dog, c'est quand même vraiment mauvais, là, on va se le dire. Mais...
Ouais, Hot Dog, ils l'ont blasté solide. Là, il était... ouais. Moi, les aurores, ben, c'était pas un film qui m'intéressait, mais ils m'ont contrevendu aussi. Il était une fois les boys. Là. Genre, tous les extraits qu'ils montraient, là, ça avait l'air tellement lourd puis tellement pas drôle. Là. Ça avait vraiment l'air d'un film qui essaye d'être drôle puis qui essaye d'aller chercher le petit public québécois. Là, mais que ça a l'air mauvais. Là. Avec l'espèce de toon theme chanté par... je pense que c'est Bruno Pelletier puis Garou, je sais pas trop là. Mais c'est comme ça a tellement l'air mauvais, ça a tellement l'air quétaine, puis essaye de nous prendre par les petites émotions. Puis en plus, par-dessus ça, les trois gars qui jouent sur dans le film, ils ont fait comme une espèce de sketch là, pour présenter un prix là.
Ah, c'était
un petit peu trop préparé là. Ben tu sais, en même temps, ils sont jeunes là, peut-être que c'est eux autres qui ont décidé de faire ça, mais c'était mal exécuté,
mettons. Ah non, ça allait pas du tout. Puis, tu sais, j'étais un bon public quand même, là, mais à ce niveau-là. Mais là, genre, vraiment, là, je regardais ma télé, puis j'étais comme hyper incrédule. Là. Je trouvais que comme c'était quasiment un malaise, là, pour de vrai, leur présentation du prix. Je me suis même permis de faire un commentaire sur Facebook en disant, là, hey, wow, est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir? Je veux dire, parce que il était toutefois les boys, là. Moi, j'ai quasiment le feeling, en fait, puis je l'ai pas vu encore là, puis j'ai vu Hot Dog, mais je pense que j'ai le feeling, là, que c'est encore pire. Je suis sûr là, que c'est encore plus minable, que c'est encore plus tout ce que j'aime pas, tu sais. Dans Dog, il y a comme, je sais pas, au moins, il pourrait avoir une petite audace par-ci, par-là, que tu peux dénoter, puis... Mais des fois, les boys, ça a vraiment, vraiment l'air exécrable. Bref, ne focussons plus sur le négatif. Mais ouais, les aurores, c'est Infoman, ça se trouve où, là? Moi, je veux le voir, ça.
Ah, oh, il est sur tout.tv.
Savez-vous? Sur tout.tv,
bon, oui, ben, ça parfait, s'écoute sur tout.tv.
On va regarder ça.
D'ailleurs, tout.tv qui vient de faire peau neuve, hein, qui vient d'avoir une nouvelle version, en fait, tout un redesign graphique blanc, finalement, qui est comme la couleur à la mode, j'ai l'impression, avec aussi la fabrique culturelle. Mais ouais, c'est ça, tout.tv qui maintenant dispose d'une section extra qu'on peut donc s'abonner au coût de 6,99 par mois et qui, comme Illico ou comme Netflix, propose une section de, l'on dit, 400 films et séries télé, autant québécoises qu'américaines ou internationales, doublées en français, bien sûr. Et voilà, alors c'est une nouvelle offre de plus hein, pour la vidéo sur demande, donc moi je trouve ça bien. Maintenant, le site de tout.tv, moi j'ai toujours trouvé lourd en fait à naviguer. vraiment, comme, tu sais, ça fait 5 ans que ça existe, j'y vais vraiment rarement, sauf quand que je sais que, tu sais, il y a un court-métrage, mettons, qui se trouve là. Puis quelqu'un le partage sur Facebook, quelque chose comme ça, mais bon.
Moi, j'ai mes deux émissions, là, chaque semaine, en fait, sur tout.tv, là, comme. Je pense que je m'en vais droit au but. Là. C'est pas un site que je vais naviguer, mais des fois, en fait, je vais chercher dans les documentaires, essayer de trouver quelque chose de. C'est une petite perle que j'ai pas vue. Ça m'arrive des fois des soirées d'aller vers ça, regarder des reportages. Mais sinon, moi, je suis à chaque semaine Infoman puis Série Noire. Là. C'est les deux seules séries que j'écoute religieusement à chaque semaine. Là. Ouais. Mais effectivement, moi non plus, je navigue pas tant que ça. Puis c'est que l'affaire qui m'agace un peu, que bon, je sais que c'est pour le public très général, mais les films doublés, j'ai beaucoup de difficultés ouais, avec ouais. ça. Puis bon, je sais que c'est tout.tv, c'est un mandat francophone, là. Donc je blâme pas du tout le site web, mais en général, il y a beaucoup de films traduits, donc je me donne pas la chance de les écouter. Mais c'est ça, plus côté reportage, côté documentaire, je pense que c'est une belle place pour les écouter, par exemple.
Oui, puis il y a quand même aussi, je regarde un peu, là, c'est ça, la nouvelle. Moi j'aime beaucoup leur relooking, là, leur redesign, en fait, de ici tout.tv. Puis il y a quand même une couple de. Là, mais tu sais, si t'es abonné, t'as accès à plus de contenu, puis il y a quand même vraiment du bon stock, hein, du bon répertoire. Je regarde juste dans les films québécois, sans s'abonner ni rien, quoi que c'est des films qui étaient quand même sur le site de l'ONF, là, donc c'est mais il y a Gilles Martin photographe qui est là, tu sais, si les gens peuvent le voir, c'est un classique avec Monique Mercure entre autres, La vie heureuse de Léopold Z, encore une fois, c'est un autre film qui est gratuit sur tout.tv, qui était aussi gratuit sur la plateforme de l'ONF. J'espère qu'en fait que l'un bouffera pas l'autre, là, parce que tu sais, c'est comme, en tout cas, l'ONF était là en premier, là, sans faire trop école primaire, là, genre hey, j'étais là avant toi. Mais mais si pour s'abonner, il y a quand même Yes Sir Madame de Robert Morin puis et La Bête lumineuse qui sont, tu sais, à mon humble avis, dans mes fameuses listes, là, c'est comme deux des meilleurs films. C'est vraiment, c'est deux de nos 10 films québécois, à mon avis, les plus importants, les meilleurs et tout. Donc, bien sûr, Madame et La Bête lumineuse, si vous jamais vous les abonnez sur tout.tv, ben vous avez du ouais. bon contenu québécois, ne serait-ce à visionner.
Moi, la Bête lumineuse, c'est mon favori là, of all time là, au Québec. Il n'y a rien qui bat ça, d'après moi. C'est vraiment un incroyable film, là.
Je suis très, très, très d'accord.
Puis sinon, est-ce que vous êtes allé visiter un peu la Fabrique culturelle?
Non, en fait.
Non, pas moi.
En fait, c'est ça, c'est un nouveau projet de Télé-Québec cette fois-ci. Donc, encore une fois, un truc un peu gouvernemental. Et dans le fond, ça se veut plus comme une espèce de portail culturel et communautaire. Donc déjà, on n'est pas seulement sur le cinéma et la télévision. C'est vraiment sur tous les arts. Et la grosse différence, en fait, c'est que c'est comme le public qui peut publier des trucs. Puis on encourage évidemment le contenu vidéo. Mais il y a également plusieurs, ben, entre autres Télé-Québec, mais plusieurs organismes aussi qui participent à ça. Donc plusieurs partenaires. Donc entre autres, justement, le festival Regards le court-métrage présente plein de films en ce moment, dont le Jutra du meilleur film d'animation, Le courant faible de la rivière, qui est là disponible. Donc, vraiment, puis en plus, il y a plein de filtres, plein de tags, donc on peut, mettons, aller cliquer sur court-métrage, puis là, ben, ça nous sort les court-métrages du site. Et puis ensuite, bon, si on s'intéresse au théâtre, tu sais, à la littérature, à plein d'autres choses, ben, tu sais, il y a des entrevues, des présentations, des calendriers, des panoramas, donc c'est vraiment intéressant, la Fabrique culturelle .tv.
Ouais.
Donc, je vous suggère d'ajouter, moi, je l'ai ajouté en signé dans mes favoris sur mon navigateur Internet. Donc, j'y vais de temps en temps. Et puis, c'est tout gratuit. Hein, donc, pourquoi pas aller profiter de ce site-là.
Ouais, puis il y a une autre plateforme, en fait, hein, savez-vous ça? Il y a la distributrice, ouais. la compagnie, la boîte de distribution, le site, c'est ladistributrice.ca. Mm-hmm. Puis, ils l'ont lancé cette semaine, en fait. Ils avaient mis quelqu'un d'extraordinaire disponible pendant 24 heures. Puis là, en fait, leur plateforme, elle est en ligne et il y a quand même des très, très bons courts-métrages, du contenu ouais. gratuit. Entre autres, des très bons films. Le film de Étanche de Charles Grenier, que j'avais beaucoup aimé. Court-métrage de fiction de l'année dernière. Là, vraiment, très, très, très bon film. Il y a le film de Myriam Joubert, qui est documentaire God's Ways and Revolutions. Ça, c'est vraiment sublime aussi. Un film fait par une étudiante de Concordia, mais vraiment qui n'a rien envié à personne. Là. Je veux dire, c'est Christ, c'est bon court-métrage. Il y a le documentaire de Dan Caro, L'Ours. En fait, documentaire quand même de 35 minutes sur le Mickey de Vic et Flo. Je l'ai toujours pas vu, mais c'est sûr que je vais me prendre la petite demi-heure prochainement pour visionner ça. Je suis sûr que c'est très, très intéressant de voir notre Denis Côté travailler et le contexte du film. Puis finalement, Rémi, si tu l'as pas vu, il y a Tabula Rasa de Matthew Rankin.
Oh, oui, j'ai vu ça.
Ah, tu l'as vu, c'est fou, Brax.
Ouais, c'est incroyable.
Incroyable. Donc, Tabula Rasa de Matthew Rankin, une espèce d'univers étrange, un peu comme expressionniste, là, hyper texturé. En tout cas, c'est un court-métrage vraiment de feu. C'est 10 minutes, encore une fois. C'est un des films en 2011 qui avait gagné beaucoup, beaucoup de prix, qui avait fait un circuit des festivals assez, de façon incroyable en 2011. Donc, tout ça, gratuit pour vous. Voilà.
Ouais, sur la distributrice.ca, dis-je. Voilà. Oui. Alors, sinon, Rémi, t'as écouté
plusieurs films cette semaine. Je vous ai dit ce que j'ai écouté cette semaine.
Je sais pas, t'étais parti sur une lancée de faux documentaires.
Ben oui, je peux continuer peut-être à jaser de ça, comme ça commence quasiment à être une tradition. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, c'est vraiment suite à un projet que je suis en train de développer qui s'appelle Étrange Province, qui est une série de faux documentaires sur le web. Je suis en train de le développer, donc je cherche encore des inspirations à gauche et à droite et j'essaie de voir un éventail de faux documentaires pour m'inspirer, là, essayer de prendre un... De prendre un peu d'inspiration autour. Puis en fait, ça, je m'étais fait suggérer, c'est un film norvégien qui s'appelle Troll Hunter. Un film de 2010, exactement. En fait, c'est un film norvégien de André Ovredal. Ça se peut-tu? C'est un O avec une barre dedans, là. Je sais pas trop, en fait, qu'est-ce que la lettre signifie. Mais je l'avais vu passer à Fantasia, puis je l'ai manqué, en fait. Puis ça m'est toujours resté dans la tête qu'il fallait que je le voie. Puis là, c'était comme tellement bien synchronisé, disons, avec mon projet. Il fallait que je le voie là, avant de tourner pour avoir une idée de ce que c'était. Et ça s'en va un peu dans la lignée de ce que je suis en train de faire. En gros, c'est... on suit une équipe de documentaires, c'est des reporters qui sortent de l'université, puis ils décident de faire un genre de reportage sur la chasse illégale des ours en Norvège. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a un chasseur, un genre de braconnier là, qui sera en fait probablement le responsable pour la tuerie de plusieurs ours dans la région. Puis ils commencent à le suivre en cachette, ils essaient de l'interviewer, l'homme veut pas, puis ils commencent à essayer de le suivre en cachette. Et ils le suivent jusque dans une forêt, il faut qu'ils prennent un traversier, ils s'éloignent dans les montagnes et ils arrivent dans une zone vraiment reculée de la Norvège. Et en fait, l'homme, c'est un chasseur de trolls parce que en Norvège, il y a le gouvernement, il y a un organisme qui a été formé par le gouvernement qui cache des trolls. c'est jamais dit à 100%... C'est expliqué très grossièrement pourquoi, mais en tout cas, il y a une excuse qui est placée sur pourquoi il y a des trolls dans une région éloignée de la Norvège. Mais donc, on se retrouve dans le milieu des bois avec des trolls géants. C'est vraiment des bêtes qui sont comme trois fois la hauteur d'un humain. Puis en fait, là, il y a une espèce d'épidémie de rage chez les trolls. Fait que les trolls commencent à sortir de leur zone réservée à eux et commencent à se promener en Norvège. Fait que là, pour éviter cette espèce de contagion-là, l'homme, le chasseur, est envoyé à chasser les trolls. Puis là, ben, l'équipe, les reporters, en fait, croisent l'homme, puis l'homme se rend compte qu'il a été suivi par eux, puis il décide finalement de se donner à la caméra, puis d'expliquer c'est quoi son travail, puis d'expliquer... vraiment de leur dire tout en fait sur cette zone là de trolls cachés en Norvège. Puis ça part vraiment en fait comme un vrai documentaire. C'est très bien exploité au début avec des entrevues, on est vraiment dans la nature. Mais je vous dirais que le premier moment où on voit un troll, c'est là qu'on se rend compte que c'est... Ben, on le sait d'abord que c'est une grosse supercherie, mais le premier troll qu'on voit en 3D géant avec un gros nez, des grosses oreilles, là tu fais « Ok, là on est dans la comédie », puis là c'est 100% assumé qu'on est dans la comédie. Voilà, c'est la Norvège, en fait, moi je trouve ça cool parce qu'ils ont vraiment une espèce de regain avec quelques films qui sont sortis de là, des films de genre surtout. J'avais vu Rare Export à Fantasia aussi, un film sur des Pères Noël démoniaques. Ils ont comme une espèce d'univers assez éclaté en Norvège, puis ils sont en train de vraiment sortir leur film de là, puis c'est bon en fait de voir un cinéma national qui peut-être se dresse de là. Je sais pas, en fait, je connais pas beaucoup le cinéma norvégien là, mais on voit qu'il y a comme vraiment quelque chose qui s'est développé dans les dernières années là.
Mais toi, qu'est-ce que t'as... parce que j'ai vu ce film-là il y a longtemps, là. Okay. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est positif ou est-ce que t'es sorti de là un peu bredouille ou...
Ben, je dirais que c'est un très bon divertissement. Je pense que dans la lignée des faux documentaires que j'ai écoutés récemment, c'est vraiment pas le meilleur, là. La technique de tournage est très bien. En fait, ça a vraiment l'air d'un documentaire caméra épaule pris sur le vif. Mais reste qu'il faut, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. C'est un film qui est dans le but vraiment de divertissement de base, là. Ils n'ont pas essayé de faire un grand film, disons, mais c'était efficace pour ce que ça voulait faire. Je pense que le concept s'essouffle un peu. C'est un film d'une heure 40, 1h45. À un certain point, je trouvais que le concept s'essoufflait, mais reste que la façon que c'était exploité, c'était quand même très divertissant. Puis il y a des bonnes surprises au travers du film. Il y a une couple de bonnes scènes aussi. Il y a une scène en particulier où il essaie de prendre une prise de sang d'un troll, puis le chasseur de trolls s'en va sur un pont, puis le troll est caché en dessous, là, comme la légende le dit. Puis il essaie d'attirer le troll avec du sang sur le pont, puis il essaie de le piquer avec sa grosse seringue. C'est quand même drôle, c'est super bien fait. Comme je disais, je pense que c'est peut-être juste que le concept s'essouffle, mais si c'est un divertissement, c'est un film, un film de party aussi, là, tu sais, genre de film que t'écoutes dans un marathon de films avec une gang d'amis, là.
On fait ça des fois, nous.
Oui, ça arrive des fois. Mais c'est sûr que, tu sais, comparativement au faux doc que j'ai écouté récemment avec le faux doc de Peter Jackson, puis les faux documentaires de Christopher Guest, on est vraiment ailleurs. C'est drôle.
Ouais.
C'est quand même drôle. C'est pas du drôle laugh out loud comme on dit, mais c'est ça fonctionne pour ce que ça doit faire, là.
Mais ouais, moi aussi je pense que c'est vraiment ça. C'est comme une fois passé la découverte un peu des créatures en tant que telles, puis comme l'espèce de disjonction entre le documentaire et le film un peu de monstre, c'est vrai que je crois que la deuxième partie était un peu longue. Donc, peut-être qu'un format comme moyen-métrage serait plus convenu à ce film-là. Mais bon, j'ai pas regretté de l'avoir vu non plus.
Ben, ma petite déception, en fait, c'est qu'il n'ait pas exploité les monstres d'une façon sérieuse et spooky. Tu sais, je m'attendais vraiment à ce que ça, on soit plus dans l'horreur assumée, parce que c'est tellement absurde comme contexte, puis les personnages sont quand même bon, ils sont pas, les acteurs jouent pas faux, mais c'est quand même des personnages un peu gros. C'était en masse pour être drôle, tu sais. S'il avait assumé le côté horreur à 100%, je pense que ça aurait été encore plus drôle, puis ça aurait été encore plus efficace. Mais dès que tu vois les trolls, la façon qu'ils sont designés, le premier même qu'on voit, c'est un troll à trois têtes. On est comme rendu un peu trop loin, tu sais, du réalisme que ça laissait d'amener. Puis c'est là que vraiment je pense que j'ai décroché, puis j'ai fait bon, ok, là c'est juste de la comédie loufoque, mais il y a pas ce côté là scary là autour du film, là.
Un film absurde qui s'assume pas dans l'horreur, puis qu'il y a pas des personnages crédibles, ça me rappelle un film québécois, ça.
Hey, wow.
en tout cas
Mais ouais, 2 étoiles sur 5 pour Tom à la ferme, Paul, dans ta critique. 2 étoiles sur 5.
Ben, écoute.
Moi, j'ai lu beaucoup de positifs là-dessus. J'étais vraiment surpris, en fait, de te lire. Puis, ouais, ben, en fait, c'est ça. C'était Tom à la ferme qu'on parlait, là, pour être sûr que tout le monde a suivi, ceux qui suivent pas notre blog, là. Mais moi, j'avais eu beaucoup de beaux commentaires, en fait, sur ce film-là. Puis, justement, il y en a même qui disaient que c'était tellement différent de tout ce qu'il faisait, que c'était probablement un de ses meilleurs. Puis, toi, t'es complètement à l'opposé.
Ouais, ben, moi, c'est un peu l'inverse, en fait. J'ai l'impression que. Il a tellement essayé de se donner un défi à lui-même que finalement, il patine. Parce que je trouve que le film vraiment change de ton, souvent. Et surtout, le scénario, je trouve qu'il est vraiment faible. Comme tu comprends pas du tout. Parce que je trouve que c'est trop stupide pour être comme un thriller psychologique à la Hitchcock, auquel il essaie d'aspirer. Et il n'y a pas assez de tension pour que ce soit plus comme un film d'horreur. Parce que le film a vraiment des aussi, là, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à un Texas Chainsaw Massacre. Dans le fond, comme un jeune qui s'en va dans une famille un peu de redneck, un peu stupide, là, dans le fond de la campagne. Donc, tu sais, il y a comme des expérimentations un peu d'auteurs qui font un peu vidéoclip par moment, pour lequel on connaît d'ailleurs Xavier Dolan, là, si on veut. Mais je trouve qu'après, comme un Lawrence Anyways que j'ai adoré, que je trouvais vraiment bien écrit et bien développé, ça, j'ai trouvé que c'est juste comme un exercice de style un peu brouillon, finalement, là. Mais il y a des images fortes, autant qu'il y a vraiment des scènes faibles. Je trouve que les gens, on dirait qu'ils ont beaucoup passé l'éponge sur ce film-là. Mais tu sais, il y a une scène de nuit, je sais pas si tu t'en rappelles, Pascal, là, qui est comme illisible là, au début du film, là. La première nuit qu'il passe à la ferme. Puis surtout comme J'ai jamais accroché au personnage, puis je me suis jamais identifié au personnage principal.
Mais ça, c'est un problème un peu, je suis d'accord. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que physiquement, il essaie d'être vraiment loin de lui-même, mais tout le long du film, t'as les sons de cloche qui te rappellent que c'est Xavier Dolan qui acte. Moi, j'ai jamais trouvé très crédible, au fait. J'ai toujours trouvé que... Moi, son meilleur rôle, en fait, tu sais, dans ses films, c'est vraiment dans ses films. Tu sais, c'est dans Les Amours imaginaires, le personnage qui joue, on dirait que c'est un peu une
expérience. C'est un incroyable rôle, ça, dans Les Amours imaginaires.
C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme une espèce d'extension de son négatif lui-même, un peu, là, si je peux me permettre. Fait que, je sais pas, je trouvais que ça y allait comme un gant ou bon. Puis, on dirait que là, ici, vois-tu, tout dans ce film crie exercice de style aussi. Puis, jusque dans le casting, dans la façon, la métamorphose. Or, moi, j'ai trouvé que c'était une des grandes fautes du film, c'est que le fameux Tom, t'as l'impression que c'est Xavier Dolan déguisé. T'as jamais l'impression que Tom existe. Donc, ça, c'est vrai que c'est une faute. C'est une faute que tu laisses aller parce que quand tu te rends compte que le film va ailleurs, le film est très vivant. En fait, on en parlait déjà. Je trouve que c'est une des grandes forces de Xavier Dolan, c'est d'insuffler une grande vigueur et vitalité à ses sujets, à ses films. T'en ressors crinqué, pompé à bloc. Je veux dire, il y a plein de bonnes idées au pied carré. Mais ouais, un espèce de scénario bancal, là, je suis d'accord. Là. Puis je sais pas, puis quand ça essaye d'être un peu film d'horreur, ça fait un peu genre son effrayant avec genre
des violons qui partent.
Ouais, c'est puis... ça. C'est un peu de base. Là.
Moi, je sais pas, j'ai stické sur le Texas Chainsaw Massacre, puis ça me donne vraiment le goût de le voir.
Ben ouais, ben non, mais voilà. Pour de vrai, c'est un film qui divise. Hein.
J'adore Dolan, fait que je pense que ça va. Je sais pas si je vais aimer ça, mais j'ai l'impression que ça va être dans mon genre. Là, mais. Ouais. Puis la direction photo, c'est quand même André Turpin, c'est quel, ouais, de quoi ça va? Tu dis que c'est très sombre au début, là, mais...
Ça veut dire que c'est inégal, mais c'est vraiment...
Ça doit être un film d'ambiance quand même, là, fait que c'est quand même assez important comme facteur, là.
Non, mais je pense que c'est clairement le point fort du film, c'est vraiment les non seulement la qualité de la direction photo, mais les astuces de mise en scène, puis les façons... C'est juste la scène d'ouverture, c'est une espèce de montage sur lui qui écrit sur une napkin un texte qui va dire aux funérailles de son chum. Puis juste ça, je trouve que c'est une belle façon d'ouvrir un film avec une espèce de... tu sais, sa voix off de lui qui murmure, puis qui songe aux mots qu'il va écrire. C'est comme plein... C'est rempli de bonnes idées comme ça, mais c'est aussi rempli de, comme, longueur, puis de plans de lui qui marche, puis qui cogne à la porte, puis qui va se promener, puis que là, il est pensif, puis je sais pas. Et je trouve que si ça avait été plus... Tu sais, peut-être plus assumé dans le côté horreur et tension, puis qu'on avait coupé un peu au montage pour faire de quoi, de... Tu sais, un petit film là, de 90 minutes, là, bien rythmé, là, la pilule aurait mieux passé, selon moi.
Bon.
Mais bon. Mais c'est très talentueux, hein, tu sais, je veux dire, c'est ça. J'ai le goût de voir son prochain film, puis qui est déjà tourné, d'ailleurs. Donc, on devrait l'avoir dans pas si longtemps.
N'épiloguons pas trop sur Thomas Laferme. On va se garder un peu de jus, puis un peu de temps pour le nouveau-né de Wes. Oui. Wes Anderson, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu, les amis?
Moi, je l'ai vu, ouais.
Ah, moi, je l'ai pas vu. Oh my God, je vous ai tellement chanceux, là. Moi, j'en reviens d'un 3 jours à l'écart, là. Fait que j'ai même pas encore entendu rien sur le film, là.
Ah, puis c'était la folie, hein. Moi, j'y vais samedi soir, là. J'étais vraiment content d'aller voir le film. On arrive au Forum, la seule salle qu'il joue à Montréal jusqu'à ce vendredi. Mm-hmm. C'était sold out, toutes les présentations à venir. Donc, je me rabats sur Her, de Spike Jonze, qui était vraiment excellent aussi. Donc, je serais content de l'avoir vu. Puis, je serais content aussi qu'il était encore à l'affiche. Donc, ça, c'est bien pour ça, le Forum, hein, les films comme ça qui gardent longtemps. J'y retourne le lendemain, dimanche soir, encore une fois, en espérant qu'il y ait de la place. Et là, c'était correct qu'il y avait de la place.
Mais pareil pour moi, hein, en fait, je t'avoue, moi, je suis allé dimanche dans la journée. Puis, tu sais, on est arrivé, je suis arrivé un peu flush. Puis, il a fallu que je me mette, là, genre, une des premières rangées en avant. Là, c'était la folie, là, comme tu dis, là, c'était ça. Le comble. Mais je ne savais pas qu'il était seulement au Forum, en fait, pour une semaine, en fait. Ça explique, là.
Ouais, parce que dans le fond, en fait, là, c'est la version originale en anglais et à partir de vendredi, il va jouer entre autres au Cinéma du Parc avec sous-titres français.
Okay.
Donc, j'imagine que bon, la copie est arrivée plus tard ou peu importe. Là. C'était des contrats entre les cinémas de concurrence, de comme moi, j'allais une semaine avant toi. Là. Mais vraiment, pour vrai, là, je trouve que c'est un bonbon, ce film-là.
La bande-annonce est comme est tellement spectaculaire, ouais. Entre 4-3 en plus, ouais. Ils osent toujours, là, ils osent toujours pousser ça plus loin. Là. Ouais.
Et c'est dans la continuité directe hein, de Moonrise Kingdom et de Fantastic Mr. Fox. Je pense que ceux qui n'aiment pas son cinéma ne vont vraiment pas être convertis avec ce film-là. En un sens, c'est peut-être le film le plus Wes Andersonien de son œuvre. C'est rempli de ses mimiques. Toute sa famille d'acteurs est là. Même le plus petit rôle, c'est un caméo d'un acteur qu'on a déjà vu dans un de ses films. Il y a également des nouveaux venus, notamment Tilda Swinton qui joue un petit rôle de...
Mais non, Tilda a joué dans Moonrise Kingdom.
Oui.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, à tout le moins, il y a le protagoniste, hein, le jeune Indien, encore un jeune acteur. Et d'ailleurs, il y a aussi Saoirse Ronan, je ne sais pas trop comment
on prononce son nom. C'est Saoirse qu'il faut dire, en fait.
Ah, Saoirse.
Saoirse Ronan. Je ne sais pas pourquoi ça donne Saoirse, mais je sais que ça se dit Saoirse.
Donc, ouais, cette jeune fille aussi, Wes Anderson, qui est toujours très bon, je trouve, avec les jeunes acteurs. Ce n'est pas évident, mais il nous a prouvé, notamment avec Moonrise Kingdom et Rushmore à l'époque. Hein, Jason Schwartzman était très jeune quand il tournait ça. Mais ouais, vraiment du bonbon. Chaque plan est travaillé. Et il y avait une analyse vraiment poussée sur le site, le blog de David Bordwell, au davidbordwell.net, qui compare Wes Anderson à Ozu. Et qui explique que dans le fond, comme Ozu, il s'est tellement donné des règles, des contraintes, qu'il peut trouver des subtilités là où personne d'autre en trouve, en fait. Parce qu'on parle de caméra frontale, on parle d'un plan, souvent c'est comme quelqu'un au centre du plan contre un décor plat.
Tapisserie, donc, là, un peu.
Ouais, ouais, et ou des travelling vraiment latéraux qui vont éventuellement peut-être tourner à 90 degrés. Il y a vraiment tout son système qu'on connaît pour ceux qui ont vu ses autres films. Et également des couleurs vraiment appuyées. Rien n'est laissé au hasard. Et vraiment, dans ce film-là, je pense que plus qu'aucun autre, le côté artificiel et méticuleux est mis de l'avant. Notamment, tu sais, en ouverture, on a comme une espèce de superposition de plans dessinés, tu sais, un plan de la montagne et des arbres avec un dessin de l'hôtel, tu sais, qui fait figure de l'hôtel et comme des petits personnages animés qui seraient comme les acteurs au loin qui montent dans le funiculaire pour aller à l'hôtel. Mais donc vraiment cette artificialité-là est mise de l'avant et c'est comme une qualité en fait. C'est comme si pour lui il va prendre des techniques désuètes pour nous montrer à quel point c'est le fun de fabriquer du cinéma en fait. Donc et puis bon, ensuite je trouve que le film m'a pas autant marqué émotionnellement qu'un Moonrise Kingdom ou qu'un Rushmore. Je trouve que le film se veut peut-être un peu trop léger. Et aussi, il y a eu quelques points de violence qui sont assez surprenants dans son cinéma.
Ouais, ouais.
Mais qui sont quand même traités à la blague. Parce qu'en fait, l'histoire se passe dans les années 30. On est comme à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Et il commence justement à y avoir un peu des soldats qui patrouillent, des complots, des vols de testaments, etc. Donc, c'est une histoire un peu quasiment BDS hein, qui me rappelait un peu des romans de Tintin.
Ouais, ou Corto Maltese ou ces affaires-là. Mm-hmm.
Toi, Pascal, qu'est-ce que t'en as pensé?
Hey, moi, je vais casser le fun un peu. J'ai déchanté, moi, je t'avoue. J'ai pour plusieurs raisons, le film m'a laissé assez froid. Quand même, oui, surtout en comparaison à son dernier. Parce que, écoute, on peut pas ne pas le comparer à lui-même, tant il est fidèle à lui-même et tant il a, justement, comme tu l'as dit, Paul, son propre langage et son propre standard de qualité et d'appréciation. Comme tu l'as dit, c'est le film Wes Anderson ou Wes Anderson, on dirait... comprend exactement comment Wes Anderson réfléchit et peut faire un film où il intellectualise comment Wes Anderson réfléchit pour en faire le film le plus Wes Anderson. Mais c'est un film quasiment du trop pour moi. C'est un film trop opulent, si bien qu'il n'y a jamais... OK, pour l'illustrer, tu sais, dans Royal Tenenbaum, là, c'est tout le temps lui que je sors parce que moi, je trouve que personnellement, c'est peut-être son meilleur. Mais dans Royal Tenenbaum, c'est que chaque personnage est extrêmement coloré et caricatural, mais chaque personnage a une infinie profondeur du fonction de ses interactions. Alors que dans Grand Budapest Hotel, on dirait qu'on a sorti la pléiade de comédiens, mais le nombre de rôles inutiles, en fait, est hallucinant. En fait, je crois que c'est le film que j'ai vu où il y a le plus de rôles inutiles de l'histoire du cinéma, ouais. Pratiquement. Jason Schwartzman, je suis fucking désolé, mais là, il faut que ça arrête, là. Genre, ça doit arrêter, là. Genre, on peut-tu faire une pétition? Le comble de l'inutilité. Mais tu te rends compte qu'au fait, c'est qui les personnages? OK, qui sont intéressants? Il y a le jeune, Saoirse Ronan, Ralph Fiennes, puis par extension, peut-être Adrien Brody, OK? Ça, pour moi, c'est peut-être les quatre personnages intéressants. Vraiment, là, le reste, là, c'est vraiment de la fioriture. Puis oui, c'est le fun, rococo, fioriture, nanana, mais là, vraiment, là, comme... on va trop loin. Là. On va trop loin. on se lance trop de bines, on se lance trop de clins d'œil. Il ne reste que l'artificialité plastique au final. Il n'y a pas de moment non plus. Parce que le film s'aplanit vers le bas quand tous les plans et toutes les scènes se veulent énormes. Ça fait qu'il n'y a rien qui sort du lot. Tu sais, dans Moonrise Kingdom, il y a quand même des moments, genre le moment sur la plage, par exemple, ou même quand ça devient BD à la fin, le moment où avec la pluie torrentielle puis l'ouragan, ouais. Ben c'est amené, puis c'est le fun, tu sais, ça arrive, ça détonne, ça marque quand il se fait frapper par la foudre, je sais pas. C'est tous des moments forts parce qu'il y a un beau... Il y a des éléments scénaristiques qui mettent en place certaines choses, alors que là, tout arrive là, vraiment là, dans Grand Budapest Hotel. T'sais. Puis si bien que t'es pas capable de vraiment dire qu'est-ce qui se démarque, puis encore moins au niveau des comédiens. Vraiment, là, c'est bien. Puis même la romance...
Ben, je dois dire que Ralph Fiennes fait vraiment toute une performance, puis il est incroyable dans son rôle.
J'adore Ralph Fiennes, je pense que... Oui. Il y a un bon timing comique, en plus. Il est très agressif, là, mais quand on le regarde dans un film comme In Bruges, là, c'est tellement comme du comique qui vient des tripes. Là. Ça marche super bien, en fait. Là. J'ai vraiment hâte de le voir, en fait, dans ce rôle-là.
Absolument. Non, Ralph Fiennes, c'est vraiment... Puis on dirait qu'il... Il a quel âge, Ralph Fiennes? On dirait qu'il vieillit pas non plus, je sais pas. On dirait qu'il a jamais été aussi... Là, c'est un bel homme, puis sais pas, il est intemporel, on dirait. C'est, Ralph Fiennes, vraiment, rien à dire. Ça, c'est comme de doigt de maître. Il y a plusieurs bonnes choses... dans Grand Budapest Hotel, mais c'est les choses qu'on s'attend. Je veux dire, oui, la direction artistique est incroyable, oui, la direction photo, oui, le côté un peu, le fétichisme là, de fabricoler, de rafistoler un film, là, je sais pas, dans tous ces petits détails, c'est vraiment, vraiment le fun, mais moi, je t'avoue que pour un film qui se veut aussi bonbon, c'est un bonbon surette un peu, j'ai trouvé, moi.
Fait que t'as fait un peu une overdose de sucre, finalement.
Ouais, un peu, peut-être.
Ben, écoute, je peux comprendre, mais je te rétorquerais quand même que, dans un sens, c'est pour ça qu'on va au cinéma, tu sais, c'est pour voir des grands cinéastes en maîtrise de leur art.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, on a beau, je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment haï Nymphomaniac, ou, tu sais, moi, j'ai pas trop aimé Thomas Laferme, mais tu sais, je trouve que c'est pour ces cinéastes-là qu'on se déplace, puis c'est qu'on veut être témoin, en fait, de leur trouvaille, puis de ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à dire. Ce film-là, en fait, ça me rappelait un peu les bandes dessinées de Dr. Seuss, tout en rime, puis tout en couleur. Puis il y a comme juste lui, en fait, qui a ce style-là un peu. Comme Wes Anderson, il a créé son propre art, si bien qu'il est facilement imitable, mais jamais égalable.
Jamais.
Et c'est vrai que le film est plus superficiel. Je pense qu'il était placé aux côtés peut-être d'un Life Aquatic qui m'a moins touché. Mais reste que je trouve que c'est un excellent film qui est peut-être juste pas aussi mémorable et aussi, comment je dirais ça, on ressent pas autant d'affect qu'envers justement Moonrise Kingdom, où justement il y avait quand même la place pour une belle histoire d'amour bien racontée.
Mm-hmm.
C'est peut-être ça qui manque. Mais la relation entre le jeune et son mentor dans une autre époque, une époque où on faisait vraiment attention aux plus petits détails, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment bien. C'est ça que j'en retire du film. Parce qu'il me semble qu'on est rendu à une époque un peu des fois où le cynisme et l'ironie est roi. Où c'est bon genre d'être cynique tout le temps, puis de faire de la répartie, puis tout ça. Puis, tu sais, Wes Anderson, il est sincère, tu sais, il fait juste dire, c'est ça que j'aime ça, comme prendre du temps, faire une belle composition. Puis moi, ben, j'avoue que ça me suffit pour l'instant. Ensuite, à voir s'il faut pas qu'il se répète de film en film, mais j'étais encore comblé par cette affaire. Donc, voilà. Je trouve... À voir au cinéma, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, sinon, Rémi, qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine?
Qu'est-ce qui sort en DVD? Le remake du film québécois que nous avons pas vu. En fait, le troisième remake en un an. Delivery Man, réalisé par Ken Scott. Donc, le remake de Starbuck. Le troisième remake de Starbuck. Ensuite de ça, il y a Le Passé qui sort en DVD aussi.
Oui!
Oh! Hein, Pascal va être content.
Ouais,
une nouvelle addition à la collection DVD de Pascal.
Absolument.
Et celui que je me gardais pour la fin,
Wolf. Non,
mon Smarties rouge, c'est The Wolf of Wall Street.
Yeah.
Parce que c'est important. Parce que c'est important. C'est important à voir.
Voilà. Et en salle, Pascal, qu'est-ce qui sort vendredi?
Il sort un documentaire qui a l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant, qui s'appelle Ariel, un documentaire québécois de Laura Barry. Vous allez voir, c'est quoi, là? Genre, on manque de temps un peu, mais c'est vraiment... En tout cas, ça a l'air absolument saisissant. Il y a... OK, je vais le dire, là. Il y a Darren Aronofsky, Noah. Moi, j'ai vraiment un mauvais feeling. Il est quand même à 76% sur Rotten Tomatoes en ce moment. Donc, on parle quand même d'un film avec des critiques qui, pour ce que c'est, je crois que c'est assez bien. J'ai quand même foi
en Darren. J'ai beaucoup de... Mais moi, tout, j'ai beaucoup de doutes. Puis en plus, il me semble qu'on n'a pas de temps entendu parler. On avait vu une grosse bande-annonce. Puis après ça, il n'y a comme pas eu. On s'est pas fait marteler sur les médias sociaux puis sur YouTube avec plein de bandes-annonces. Là. Ça a été vraiment. Comparativement, comparativement à Black Swan, qui est une espèce de. C'est un film beaucoup plus indépendant. Bon, c'est pas un film indépendant, mais c'est un film beaucoup plus petit. Puis il y a eu tellement de résonance partout. Puis là, on dirait que Noah, là, ça va juste comme. Ça va être un feu de paille. Là.
Ouais. Mais tu sais, quand il y a Russell Crowe qui dit It Begins là, dans la bande-annonce, comme ça, je pense que c'est un point de non-retour. Et on finit avec Tom à la ferme, mesdames et messieurs, de Xavier Dolan, qui sort en salle vendredi.
Voilà, suggestion répertoire, je vous conseille le ciné-club du CETAS à l'UDM. C'est au 3200 Jean-Briand, et le local, c'est le B3320. Ce lundi, 31 mars à 19h, c'est le film Syndromes in a Century de Pichapong Weerasethakul.
Nice.
Donc, c'est un ciné-club consacré au cinéma asiatique. On se quitte sur la bonne annonce de Tom à la ferme de Xavier Dolan. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Lando et j'étais avec mes collègues.
Bonne fête, Paul, Rémi Fréchette.
Et bonne fête, Paul, Pascal Plante.
Merci.
C'est Tom, c'est moi Tom.